Ça jase à Lyon sur Jazz Radio et LyonMag.com avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin Yves Blin, député PS du Rhône. Yves Blin, bonjour.
Bonjour.
Alors à mi-mandat, nous faisons le tour de nos députés afin d'analyser leurs actions. Votre bilan chiffré, c'est moins d'une dizaine de séances manquées à l'Assemblée, beaucoup de réunions en commission, mais encore aucune proposition de loi déposée. Comment vous jugez votre bilan? Est-ce que vous êtes satisfait?
Alors moi, j'ai eu des activités intenses et notamment j'ai été rapporteur de la loi cadre sur l'économie sociale. C'est vraiment un sujet important qui pour autant fait peut-être pas beaucoup de bruit dans les médias, mais qui concerne 2 millions de salariés dans notre pays qui sont employés du secteur associatif, des mutuelles, du mouvement coopératif, qui est somme toute une façon d'entreprendre très différente puisque c'est pas l'entreprise capitaliste classique, mais des entreprises désintéressés d'une certaine façon, mais qui pour autant se situe dans la sphère du secteur privé. Et l'économie sociale avait cette particularité en France, c'est qu'elle n'était pas définie nulle part, dans aucun texte. Il fallait donc qu'on lui donne un cadre pour pouvoir la développer, pour pouvoir booster son développement, parce qu'on trouve que, ma foi, c'est une forme d'économie tout à fait intéressante.
Alors, c'est votre premier mandat et vous avez la chance en plus de le faire avec la majorité. Oui. Le site nosdéputés.fr vous classe en plus parmi les 150 parlementaires les plus actifs. Or, vous êtes également maire de Fézin. Vous pouvez vraiment être à la fois actif à Paris et dans votre commune.
J'ai une excellente équipe à Fézin
qui a été
renouvelée il n'y a pas longtemps, donc avec laquelle je travaille. Ça oblige à déléguer et je pense que c'est une bonne chose aussi parce que dans une commune, on est collectivement responsable de ce qui se fait. Donc, je pense que c'est pas une mauvaise chose, effectivement, que d'accentuer le travail en équipe. Et puis, vous savez, à l'Assemblée, il y a le travail, quand on regarde nosdéputés.fr, c'est un peu, je dirais d'une certaine façon, le pointage des séances obligatoires. Mais il y a tout le travail qui ne se voit pas, qui n'est pas formalisé quand on regarde des sites comme celui-ci et qui est largement tout aussi passionnant.
Dans quelle mesure vous présentez votre bilan aux électeurs de votre circonscription et est-ce que ça les intéresse?
Je le fais régulièrement au travers de rendez-vous que j'ai avec ceux qui le souhaitent, mais j'ai aussi un travail important en direction des entreprises pour un parlementaire. Le développement économique, pour moi en particulier, est vraiment un élément important. J'ai par exemple beaucoup contribué à faire évoluer des dossiers comme, chose un peu obscure, le problème des électro-intensifs et particulièrement la difficulté d'accès à l'énergie et à des prix d'énergie acceptables qui se posent pour toutes les industries de la chimie qui sont déterminantes sur l'agglomération lyonnaise.
Alors il y a 5 députés PS du Rhône, 2 ont flirté avec les frondeurs, taclant la frilosité du gouvernement en matière d'économie. Vous étiez dans le camp des fidèles, vous avez signé une tribune, vous avez soutenu le CICE. Pourquoi avoir fait ce choix alors qu'à l'époque c'était quand même plus facile de taper sur Manuel Valls?
Mais parce que moi je me suis inscrit vraiment dès le début dans le sillage du président de la République et de son programme. Et je le dis souvent, n'oublions pas qu'un des objectifs forts assignés à François Hollande à cette législature, c'était la résorption du déficit du budget de la nation. On n'y arrivera pas. Mais pour autant, il ne faut pas être surpris que pour tendre vers cet objectif-là, il faille faire des économies. Et les économies, il n'y a pas de mystère. Soit on augmente les impôts pour équilibrer le budget de l'État, soit on baisse les charges. Donc à ceux qui disent « ma foi, on est surpris, on ne comprend pas », non, les cartes étaient sur la table dès le début, il faut à présent assumer la situation, elle n'est pas simple, c'est toujours plus facile de dépenser de l'argent que d'en économiser.
Et cet épisode des frondeurs, est-ce que ça avait créé des tensions avec vos collègues parlementaires du Rhône? Est-ce que vous parliez encore à Pierre-Alain Muet, à Pascal Crozon?
Oui, on se parle beaucoup bien sûr, et puis on en discute avec intérêt,
oui.
Et au demeurant, quand on va un peu au fond des choses, on ne peut pas dire que leur point de vue soit aussi arrêté que cela. Je pense qu'il y a des différences d'appréciation un peu stratégiques. Qu'est-ce qu'il vaut mieux réduire comme dépense ou qu'est-ce qu'il vaut mieux augmenter comme charge? Mais fondamentalement, sur l'objectif qui était assigné par François Hollande, qui a été poursuivi par Jean-Marc Ayrault, aujourd'hui par Manuel Valls, qui est la réduction des déficits publics, je pense que personne, ceci, ne les conteste. Après, on conteste la vitesse à laquelle on va atteindre cet objectif, on discute, etc. Mais le dialogue, heureusement, n'est pas clos.
Alors récemment, vous avez remis au Premier ministre un rapport contenant 50 propositions pour simplifier les démarches entre les associations et les collectivités locales, voire l'État. Comment on s'empare d'un tel sujet? Est-ce que ça vous tombe dessus par hasard? Est-ce qu'on vous l'impose parce que vous êtes dans certaines commissions?
C'est pas forcément en lien direct avec je suis membre de la commission des affaires économiques, mais tout le champ des associations relève de l'économie sociale. Et à ce titre-là, effectivement, la commission des affaires économiques est concernée. Et puis, moi, je trouve qu'on a une chance formidable en France d'avoir un tissu associatif extrêmement développé, qui participe au faire société, on va dire, mais qui en même temps développe des activités qui, économiquement, sont utiles à notre pays. Il faut toujours des fois aller voir ce que disent les autres ailleurs de la France pour finalement en tirer profit. Alors moi, j'ai souvent l'habitude de citer Jeremy Rifkin, qui est un grand économiste américain, qui a écrit des bouquins qui font référence. Et il y a quelques années, dans un livre qui s'appelle « La fin du travail », il disait « Regardez en France, le modèle de l'économie sociale, c'est l'avenir. » En disant finalement, demain, l'économie sera plus coopérative avec le développement des réseaux sociaux, avec cette espèce d'envie de la société, de finalement aller vers des économies qui soient plus justes, qui soient moins centrées sur le gain, qui ne soient pas des économies qui creusent comme on y assiste encore maintenant. Donc, comment trouver des modèles économiques qui, d'une certaine façon, soient plus satisfaisants? Et Jeremy Rifkin disait « Ah bah, l'économie sociale française, c'est un de ces modèles-là, sans doute, on devrait le regarder de plus près. » Je me suis intéressé au sujet comme précisément étant un mode alternatif d'économie. C'est pour ça qu'on s'est assez naturellement tourné vers moi quand il s'est agi de réfléchir à ce qui pouvait permettre de mieux développer ce modèle et donc de lever les contraintes qui aujourd'hui freinent son développement.
Alors je disais en ouverture que vous n'aviez pas encore proposé de loi, ça va bientôt changer hein, puisque vous êtes chargé par le Parti Socialiste d'écrire une loi sur la création d'un service civique obligatoire. Depuis les attentats parisiens, on cherche cette solution miracle qui pourrait faire respecter à la fois la République et le vivre ensemble. Comment s'articulerait votre service civique ?
Alors, je ne suis pas chargé par le Parti Socialiste d'écrire une loi, je suis chargé d'animer la réflexion sur ce sujet-là au sein du groupe socialiste à l'Assemblée. Bah, tout simplement parce que je crois que tout le monde convient, et quand je dis tout le monde, nous en parlions la semaine dernière avec Régis Debray, qui disait « depuis 30 ans, il y a un affaiblissement de l'autorité républicaine ». Je crois que c'est vrai, voilà, ça c'est une réalité. Il n'y a pas tellement d'espace ou de lieu où on peut partager concrètement les valeurs de la République, les éprouver. Donc tout un travail a été fait par Madame Najat Vallaud-Belkacem pour réintroduire l'instruction civique à l'école. Donc je dirais qu'on va consolider le socle de savoir sur la République. Je pense qu'il faut qu'on donne à la jeunesse de France, demain, des champs d'expérience, des terrains d'expérience de l'intérêt général. Je crois qu'il faut que la République accepte de s'ouvrir à tous les jeunes, pour leur dire, voilà, venez, essayez, approuvez, apportez votre expérience, apportez votre énergie, apportez du temps pour un projet d'intérêt général, de façon à ce que concrètement, on mesure ce qu'est la construction de la promesse républicaine. Et que ce ne soit pas simplement quelque chose de virtuel, quelque chose qu'on apprend dans les livres, mais aussi que dans un temps donné, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois, 4 mois, peu importe, mais qu'on ait cette capacité que la République offre à ses jeunes, cette capacité d'apporter à l'intérêt général, d'apporter à l'édifice républicain du temps qui est le leur, qu'ils puissent mesurer très concrètement à quoi ça sert, c'est quoi des droits et devoirs, c'est quoi l'intérêt général, c'est quoi la République, c'est quoi le pacte républicain, quand on parle de fraternité, d'égalité, de liberté, qu'est-ce que ça veut dire ? Que ce ne soit pas simplement des concepts théoriques auxquels finalement il est difficile d'adhérer, et que l'on puisse en prendre très concrètement la mesure.
Alors ces dernières années, quand certains parlaient d'un retour possible du service militaire, par exemple, on leur rétorquait que ça avait été arrêté, notamment parce que ça coûtait une fortune à l'État. Est-ce que là, vous êtes en mesure de proposer quelque chose à un prix convenable ?
Oui, mais moi, je pense en plus qu'il y a une confusion. Dès qu'on parle service national, parce qu'il est encore très récent dans les esprits, on parle service militaire. Non, il y a pas, le service militaire n'était plus utile, il était coûteux, parce que voilà, quand on met en pension complète pendant un an 700 et quelques mille jeunes, hein, puisque c'est le filles et garçons, c'est ce que représente une génération, c'est effectivement très coûteux. Après, il y a une deuxième confusion sur laquelle il faut revenir, c'est quand on dit service national, tout le monde dit « Ah ben c'est le service civique, et le service civique ça coûte déjà 35 millions, 40 millions, 50 millions, c'est 35 000 jeunes, si on voulait que ce soit 700 000, ça coûterait 4 milliards. » Moi, j'ai jamais parlé que le service civique devait être appliqué à tout le monde. Je pense que le service civique, c'est une des façons, aujourd'hui, un des modes d'accès à ce que pourrait être le service national. Mais comme il y a d'ailleurs d'autres services qui existent, il y a un service volontaire européen, par exemple, qui permet que les jeunes se baladent en Europe pour se former une expérience professionnelle. Il y a en Outre-mer le service militaire accompagné, qui permet que l'armée reçoive des jeunes pour les familiariser à ces métiers. Il y a le service de solidarité internationale, qui permet à des jeunes d'aller, qui en Afrique, qui ailleurs, pour travailler pour des entreprises qui œuvrent dans ces pays-là. Mon propos, moi, c'est plutôt de dire, ben, y a des choses qui existent déjà, c'est parfait, il ne faut surtout pas les remettre en cause, il faut même les développer. Mmh. Mais ces choses-là, ces activités-là ne concernent pas tous les jeunes. Donc créons un socle commun qui pourrait être 15 jours, un mois, où là, effectivement, on amène tous les jeunes français à se retrouver ensemble pendant un certain temps, 2 semaines, 3 semaines, et où là, effectivement, on les amène très concrètement dans un vécu commun à partager les valeurs de la République. On en profite pour diagnostiquer les questions de santé, les questions d'illettrisme. On en profite pour faire le brevet des premiers secours, par exemple, ou des choses de ce type-là.
Et puis, quel est votre agenda par rapport à tout ça? Quand est-ce que vous pensez pouvoir proposer une loi à l'Assemblée? Et quand est-ce que le service civique rentrerait en fonction, le service civique dit de la loi Blin, rentrerait en fonction en France?
Alors, parlons pas de service civique, parce que ceux qui aujourd'hui sont des ardents défenseurs du service civique nous disent oh, attention. Ouais. Donc moi je parle de service national républicain. Ouais. Est-ce que ce sera une loi? Je sais pas. Mon souhait, celui du groupe auquel je participe, est que cette proposition s'inscrive dans celle que le président de l'Assemblée nationale, s'il la retient, remettra au président de la République dans un mois. C'est assez vite. Est-ce que demain, ensuite, ça prendra la forme d'une loi, d'une proposition de loi, d'un projet de loi, je ne sais pas encore.
D'accord,
c'est
mais concrètement, on pourrait voir ça arriver officiellement en 2016, 2017, si ça suit son cours.
Oui, moi je pense, alors il faut du temps, hein, c'est ouais. Une infrastructure à mettre en place, donc raisonnablement, il me semble que 2017 est un objectif de date qui peut être tenable, et dans lequel on pourrait voir, je dirais, la première génération de jeunes Français, c'est-à-dire ceux qui auront entre 16 et 18 ans, commencer à initier ce parcours. Oui, je pense que ce serait un bon objectif.
Et puis Yves Blin, dernière question, il vous reste 2 ans avant la fin de votre mandat, comment vous les envisagez?
Bien, écoutez, moi je pense que d'une certaine façon, le plus dur est fait. Il y a eu la mise en œuvre de réformes qui étaient importantes, que le président de la République avait promis, je vous rappelle les emplois d'avenir, la question des retraites, bref. Mais on voit bien aujourd'hui que, d'une certaine façon, tout le dispositif qui devait être mis en œuvre est en place. Donc il faut l'accompagner avec acharnement, notamment sur la question de l'emploi. Mais on est maintenant sur une trajectoire dont je dirais qu'elle va se poursuivre, logiquement et sans à-coup particulier, jusqu'à la fin du quinquennat de François Hollande. Donc le travail, c'est mobilisation, mobilisation, mobilisation autour de l'emploi pour que toutes les mesures qui ont été prises en direction des entreprises, en direction des ménages, soient mises en œuvre, se traduisent concrètement, mais je crois que c'est en bonne voie pour que l'on puisse enfin en récolter les fruits.
Merci Yves Blin. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lionmag.com.
Merci.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lionmag.com.